Tata boom. Bonjour, bonjour et bienvenue dans la 56e édition de Tata Poum. Tata Poum, une émission où on écoute, on débat autour de l'actualité plus ou moins fraîche, du punk, du rock, du garage et autres musiques bruyantes. Ce soir, on retrouvera les Guitar Heroes de la critique rock, puisqu'autour des boutons, autour des micros, on retrouve Guillaume, Mathieu, Cédric, Arnaud, Héloïse, Madarion et Bibi. Ce soir, nous irons de Paris à Minneapolis, puis nous partirons pour Tucson en Arizona et nous atterrirons à Barcelone, puisque ce soir, on parle de Astéréotypie, Uranian Club, Class et Dame Area. On va commencer avec Astéréotypie et un premier extrait que nous a sélectionné Héloïse.
Bonjour, je sais que vous êtes un faux compte. Je sais que vous êtes un faux compte. Je sais que vous êtes un faux compte. J'en ai marre d'être harcelé par des faux comptes de jeunes femmes. Alors que je sais, mon cher monsieur, que vous êtes un homme derrière ce compte. Et que vous voulez vous faire passer pour une jeune femme. Et que derrière tous ces faux comptes de jeunes femmes, ce sont des hommes. Mais vous croyez quoi? Que je m'en serais pas rendu compte? Vous n'avez rien d'autre à faire dans votre vie plutôt que d'envoyer des messages avec des faux comptes? Non, mais vous voulez quoi au juge? Vous voulez me rendre fou? Je suis pas fait de bois. Vous jouez avec mes émotions. Qui est cette femme sur cette photo? Pourquoi m'envoyez-vous une image de votre vagin? Je sais que vous êtes un faux compte. Vous n'avez rien d'autre à faire que de venir emmerder les gens, non? Pourquoi vous répondez pas après avoir commencé à me suivre? Je veux que vous vous démasquiez. Je sais que vous êtes un homme derrière ce compte. Voilà, vous êtes un robot. Je veux une réponse, merde alors. Vous allez me rendre fou, quoi? Putain, mais répondez-moi! Je sais que vous m'arnaquez! Je ne suis pas votre lapin! Un jour, il y avait un faux compte qui a commencé à me suivre. Et j'avais un doute. Je me suis dit peut-être que c'est un vrai compte. Du coup, j'ai envoyé un message en posant la question, en demandant si c'était un faux compte. Et j'ai reçu une vidéo d'une femme qui se montrait. Et j'ai tout de suite bloqué cette page. Même une fois, j'ai envoyé un message sur la page officielle de Facebook, sur Facebook, pour demander de l'aide. Et il y a plein de faux comptes de jeunes femmes qui ont liké mon commentaire. Vous vous appelez vraiment Louise Gomez? Vous voulez un virement de 2000 euros? Ah non, désolé, je suis ruiné. Je ne peux pas vous aider. Et puisque vous m'aimez, comme vous le dites, vous allez m'accueillir chez vous et nous serons heureux.
On vient donc d'écouter un premier extrait de Astéréotypie, ça s'appelait Faux Compte et c'est Héloïse qui nous parle de cet album Patami qui vient de sortir.
Alors Astéréotypie est un collectif musical hors norme derrière lequel se cachent Johan, Stanislas, Aurélien Claire et Félix côté auteur-interprète et Christophe Lhuillier à la guitare, Arthur Gillette, Éric Tafani aux textures sonores et à la batterie et Benoît Guivarche au clavier et Santé Modulaire côté instrumental. Le groupe est né en 2010 dans un institut médico-éducatif des Hauts-de-Seine de la rencontre entre des éducateurs et de jeunes autistes. Un atelier d'écriture et de poésie qui a débouché sur un groupe de musique au texte au moins aussi intense que ses performances scéniques et qui, après l'énergie positive des dieux en 2018 et aucun mec ne ressemble à Brad Pitt dans la Drôme en 2022 que nous avions chroniqué dans notre 35e émission, vient de sortir son troisième album, Patami. Créé par l'un des membres du groupe, Stan, le Patami des enfants, de son vrai nom, est un roi qui, au contraire des autres, est au service des enfants. Il s'agit d'une figure réconfortante, son visage précis, qui peut être mobilisé par toutes et tous, à l'image du chien de poche de la pochette du disque, aux allures disco-glam, affublé de motifs enfantins. Et c'est sans autre ambition que de nous aider à patamiser notre environnement, et c'est déjà pas mal, que l'album poursuit la formule qui fait la singularité de ce groupe, un post-punk électro et énergique, tirant parfois du côté du garage ou de la noise, sur lequel se déploient des paroles atypiques, des phrases lunaires et des textes surréalistes nés des délires des membres du groupe. Pêle-mêle, Patami cause ainsi de télé-réalité, des dérives d'internet et du phishing, d'une partie de Uno électrique et énervée, d'une soirée apéro ou de mythologie. Chaque chanteur MC a son style, sa patte amie et ses obsessions à l'image de l'émouvant C5, ouais c'est pas terrible, sur lequel Stanislas évoque ses souvenirs d'enfance avec son père à travers la mythique voiture de Citroën. Il en découle un petit quelque chose sonore de délirant, prononcé sans aucun filtre, qui tranche singulièrement avec ce que l'on a l'habitude d'entendre et qui se révèle peut-être précisément pour ce motif puissamment indictif. Ce qui est frappant chez Astéréotypie, c'est que tout semble un peu accidentel et imprévu. Sans autre attente que de faire ce qui leur plaît, les membres du groupe nous servent une interprétation habitée et théâtrale de leur texte en totale liberté. Pour conclure, je dirais que si Astéréotypie et ses albums, au même titre que l'émission de télé, les rencontres du papotin à laquelle collaborent aussi les membres du groupe font partie des projets qui poussent à faire sortir l'autisme et le handicap en général de la case médico-sociale un peu trop étroite dans laquelle on a l'habitude de le ranger, l'enjeu de ce collectif reste d'être perçu comme un groupe de musique à part entière. Et plus que jamais avec ce troisième album, les membres du groupe nous démontrent qu'ils sont des artistes accomplis.
Guillaume.
Oui, effectivement, mais pour moi, quand même, ce disque reste essentiellement un disque d'accompagnement musical de textes disparates et à la valeur politique quand même assez inégale. Hein. L'ensemble aboutit à quelque chose de très dissemblable ou d'un titre à l'autre. On bascule dans un univers ou dans des univers différents et conséquemment, on ne saisit pas bien la cohérence du tout. Sinon, d'accepter de se laisser bercer par la poésie absurde des petites histoires qui nous sont contées. Mais comme musicalement, il n'émerge aucune logique non plus qui aurait pu donner une armature à l'ensemble, mais qu'au contraire, chaque morceau semble composé indifféremment des autres, on aboutit à une sorte de cafouillis sans queue ni tête, dont la valeur intrinsèque musicale m'interroge, et voilà, j'en suis resté là.
Ah ouais, alors que moi, ce qui est fascinant dans ce projet, dans cet album, mais c'est une fois de plus, c'est les textes quoi qui sont que je trouve complètement déstabilisants et déstabilisants parce que c'est une logique d'écriture qui m'échappe. Pour moi, ça me fait penser à des expériences d'écriture comme les artistes qui écrivaient en prenant des drogues ou des expériences d'écriture automatiques sans correction etc. Et c'est cette manière d'écrire sans qu'il y ait un sens commun à ce qui a été écrit qui donnait toute sa valeur à ces textes. Et là, je trouve que j'y retrouve ça complètement aussi. Écoute, Guillaume, tout le monde sait que les alligators s'intéressent aux êtres humains plutôt qu'aux poissons. Bon, mais je sais pas où on pouvait entendre ça d'autre. Mais et puis je trouve par exemple qu'il y a un texte qui m'a fait toucher. Je crois que Héloïse l'a sélectionné après. Je ris pour autre chose, qui pourrait être une tentative d'expliquer par des autistes comment eux-mêmes perçoivent les difficultés dans leurs rapports sociaux. Un début d'explication des difficultés de communication qu'ils peuvent avoir avec le reste du monde. Et le texte est bien foutu parce qu'il prend pas l'autoroute. Quoi, il passe à côté pour nous faire comprendre ça. Héloïse l'a évoqué aussi, la C5, qui est quand même une voiture super tarte, en vrai, faut voir à quoi ça ressemble. Et ils arrivent à en faire quelque chose de très touchant à travers une histoire perso. Enfin, je trouve qu'il y a des textes qui fonctionnent bien. Musicalement, c'est bien foutu. C'est un peu plus que bien foutu d'ailleurs. Un électropunk assez efficace, qui se la pète pas trop. Voilà, qui essaye pas de prendre le pas sur les textes et les interprètes des textes. Et puis ils arrivent même avec truc que la biche soit en nous à faire quasiment des tubes. Enfin moi je trouve qu'il y a une je l'ai mis dans ma playlist. Moi je trouve que ça marche tout seul. Alors il y a un truc, je suis complètement d'accord avec toi Guillaume, le changement de voix, de style, j'imagine que il y a certains auteurs qui ont moins d'aisance dans l'écriture et dans l'interprétation, c'est peut-être lié à des types ou des niveaux de handicap. Là, je m'aventure sur un terrain que je connais pas, mais qui leur donne pas la même aisance ou les mêmes ressources. Et c'est vrai qu'à la fin, il y a un côté un peu compile de single dans un même projet qu'un truc qui fait un tout. Mais c'est peut-être la seule limite que je trouve à cet album, parce que moi, je trouve que c'est pas seulement une expérience inclusive qui ramène des neuroatypiques dans la famille du punk rock. Bienvenue les gars. Ça serait déjà pas mal. Mais pour moi, c'est un vrai album avec dedans des véritables perles. Arnaud.
Ouais, j'avais pas participé au débat moi la dernière fois sur Wild Classical, donc c'est, je pense qu'il y a pas de débat en fait. Ils font de la musique, on l'écoute avec ce qu'on est, ce qu'ils font, c'est aussi légitime que tous les autres groupes, qu'ils soient franchement Autiste, Toxico, les deux, je m'en tamponne un peu. Et puis moi, quand j'avais écouté le premier album, je savais absolument pas quelle était la particularité du groupe, donc à part d'entendre mes enfants dire c'est bizarre, papa le chanteur. Il chante bizarrement. Bon, il y en a plein qui chantent bizarrement et qui ont des voix de merde et ça pose pas de problème. Moi, le précédent, je l'avais vraiment beaucoup aimé. J'avais trouvé la poésie des textes très intéressante. Il y avait une alchimie entre la musique et les textes qui marchait vraiment bien. Pour autant, celui-là, il est pas exempt de critique. Je rejoins un peu Guillaume sur le côté foutraque et ce qui m'a gêné, c'est, je sais pas si c'est volontaire ou pas dans la production, mais je trouve les textes très mis en avant, beaucoup plus que dans le précédent album. Du coup, on s'attache vraiment aux textes et je trouve que certains sont assez chiants et pas très intéressants. Et la musicalité, elle est en retrait et je trouve que les deux ne prennent pas bien sur plein de pistes. C'est pas très grave parce que c'est un album qui mérite d'être vu en live et je pense que la fusion va marcher sur scène. Les quatre chanteurs, là, Claire, Stan, Johan et Aurélien se métamorphosent quand ils sont sur scène et la magie va sûrement prendre. Je suis d'accord sur le coup de cœur, Pierre, que la biche soit en moi avec Rebecca Warrior. Enfin, c'est une des paroles de Rebecca Warrior sont absolument, ce titre est génial. She's Bad Girl. Et c'est la même chanteuse. Ça tient aussi, quelqu'un l'a dit là, je sais plus qui, que ça tient aux personnalités des chanteurs. Il y en a qui en effet qui sont plus à l'aise et ça prend mieux. Surtout aussi au niveau de l'écriture. Hein, et pour le coup, Uno et Soirée Parfaite, je les trouve très chiants. Donc je suis partagé, mais je prendrai beaucoup de plaisir à les revoir en live.
Cédric.
Oui, bah moi je suis assez enthousiaste aussi. Hein. J'avais déjà été très très enthousiasmé par l'album précédent. Et on y retrouve quand même un peu les mêmes éléments entre les deux albums. Bon, ce qui fait quand même un peu la particularité de ce groupe, c'est la musique noise, quoi, qui va au-delà d'un simple accompagnement des textes. Et qui vaut en partie pour elle-même, notamment sur le super titre qu'on a entendu, Je ris pour autre chose. Non, c'est pas celui-là qu'on a entendu, qu'on va entendre, c'est ça.
Ouais, là, on a le premier qu'on a entendu, c'était Faux Compte, ouais. Et on va écouter Je ris pour autre chose.
Alors, évidemment, le schéma est souvent le même musicalement, c'est souvent un schéma d'emballement, quoi. En gros, on commence doucement et puis on s'emballe, notamment aussi sur le titre dont vous avez parlé, la biche, que la biche soit en nous. Et ça renvoie probablement à la fois à un choix et à la contrainte du parler-chanter sur l'ensemble des titres. Et puis l'autre aspect, vraiment les textes, bon, c'est vrai qu'ils sont mis en avant, mais ça bouscule quand même pas mal, quoi. On l'a déjà dit, c'est très poétique, notamment je pense au titre les orques adorent le foie de requin. Et ça nous emmène vers des univers assez singuliers qui peuvent prêter à sourire dans un premier temps. Mais assez vite, pour peu qu'on ait envie de se laisser porter, on est vraiment complètement enivré, notamment sur ce titre, sur la C5, et elle est géniale cette chanson, notamment sur toutes les étapes de la C5, de la phase 1 en maternelle, la C5 phase 2, c'est quand j'étais en primaire, à la fin de mon année de collège, c'était la toute dernière C5, la phase 3. La C5, c'est aussi le souvenir de mon père qui me prend dans ses bras. Donc on a des passages d'un univers à un autre assez rapides dans les textes qui sont vraiment magnifiques. Alors je sais pas si c'est complètement de l'impro, j'ai l'impression quand même que c'est retravaillé. Enfin, parce que c'est quand même difficile d'arriver à cette quasi perfection sur certains textes du premier coup. Et ce qui est bien normal. Puis bah oui, il y a des chanteurs et des chanteuses qui peuvent toucher un peu plus. C'est clair que Stanislas et Claire touchent immédiatement. Quand on les voit en concert, c'est aussi un peu le cas. Alors on se disait aussi en préparant la discussion là que ça faisait peut-être penser un peu à Pierre Vasilu, ouais. Chanteur des années 70 qui est réédité partiellement, chanteur français, Guillaume. Tu iras écouter. On retrouve un peu le même type de paroles un peu incongrues et de phrasées. Et puis bah donc grande hâte de les retrouver à nouveau sur scène puisqu'ils sont en tournée en ce moment et ils passent dans la plupart des villes françaises.
Allez, à Stéréotypie, un deuxième et dernier titre pour aujourd'hui, Je ris pour autre chose.
J'ai des aéros.
l'aéroport à l'intérieur de moi. Je veux avoir du respect vis-à-vis des avions. C'est pour ça que je ne veux pas qu'ils pensent que je me moque d'eux. Je veux prendre soin de vous, les avions. Vous faire sortir de moi pour prendre soin de vous. Vous manipuler doucement. Ne pas claquer la porte trop fort. J'ai peur de vous avaler. Vous êtes le symbole du voyage. Je ris pour autre chose. Je ris pour autre chose. Je me moque pas de vous, je ris pour autre chose. Je ris pour autre chose. Je ris pour autre chose. Je me moque pas de vous, je ris pour autre chose. Fait rire, c'est quand je dis à Olivier, c'est vrai que mon père va te vendre notre appartement, et qu'il me répond, oui c'est vrai, d'ailleurs je ne suis pas content que tu aies fait des trous dans le mur. Ce qui me fait rire, c'est quand je dis à Thomas qu'on passera toute notre vie dans la rue et qu'on dormira sur sa veste, et qu'on mangera les feuilles des arbres pour le petit déjeuner par terre dans la rue. Ce sera mieux que de manger le petit déjeuner à l'hôtel. Je ris pour autre chose, je ris pour autre chose. Je me moque pas de vous, je ris pour autre chose. Je ris pour autre chose, je ris pour autre chose. Je me moque pas de vous, je ris pour autre chose. Comme je tiens à vous et que je vous aime beaucoup, je ris pour autre chose. Je ris pour autre chose. Jamais je me moquerai de vous, je ris pour autre chose. Je tiens à vous, je vous aime beaucoup. Quand j'appelle mon père Ryan et que je lui dis qu'on est tous les deux des enfants et qu'on s'amuse pendant que les parents ne sont pas là. Ce qui me fait rire, c'est Arthur qui imite la mère américaine qui rentre à la maison.
Honey, I'm home and I have beef jerky for you.
Ça me fait rire de faire dire des conneries aux gens. Connaissez-vous le patami des enfants? La personne répète machinalement parce qu'elle ne comprend pas. Ça me met dans un état d'excitation. Connaissez-vous le patin informatique, la confiance? Connaissez-vous la honte? Connaissez-vous la boulgourine? Pensez-vous que ma cousine en Angleterre a beaucoup de caractère? Je ris pour autre chose, je ris pour autre chose. Ne me moque pas de vous, je ris pour autre chose. Je ris pour autre chose, je ris pour autre chose.
Et ben voilà, c'était donc à Stéréotypie, je ris pour autre chose, et on va aller du côté de Uranion Club. Uranion Club, Cédric nous a sélectionné un premier extrait, ça s'appelle 2600 Lulubai.
City. I could kill a city. It's entertainment. There is
voilà, c'était ça le premier extrait d'Uranium Club et c'est Cédric qui nous en parle.
Et oui, là on retrouve un album qui était quand même très attendu là, là aussi, puisqu'on n'avait plus de nouvelles d'Uranium Club depuis 2018. 6 ans. Donc le temps pour un groupe australien de faire une bonne quinzaine d'albums. Uranium Club, parfois aussi appelé Minneapolis Uranium Club, ce qui donne une petite indication sur, le, sur leur provenance, débute autour de 2015 et s'est fait connaître par un premier EP, l'excellent Band Performs Human Exploration, dont je me suis toujours pas remis, vraiment un album magnifique de bout en bout, et bon, tous les gens qui connaissaient ce groupe étaient tombés amoureux quoi, de ce groupe. Alors ce EP proposait les premières bases du style qu'on va retrouver depuis lors, un post-punk à la fois de répétition et de décroché permanent, c'est la particularité du groupe, c'est d'arriver à tenir les deux finalement, des guitares qui se croisent, qui vont toujours là où on ne les attend pas, des voix parlées chantées, des textes étranges, un peu dans le sillage de Wire pour les plus anciens, ou proche des premiers Parquet Courts, mais en plus radical. Cet opus est donc le quatrième, donc qui inclut un live, mais finalement le premier EP fait aussi office de LP, quoi. Le quatuor, donc Brendan Wells, Harry Wall, Ian Stemper et Matt Stagner se partagent entre un classique deux guitares, une basse et une batterie, mais alternent le chant entre les trois chanteurs, donc tout le monde sauf le batteur. Tout ça est produit sur le label Static Shock Records, un label punk hardcore de Londres, hein, où on retrouve Glass notamment qu'on avait chroniqué ici, Negative Gears, je ne sais plus si on l'a fait, et un autre label, Antifad Records, dont on a déjà pas mal parlé, un label australien. Alors, quoi de neuf sur cet album? Toujours des morceaux assez longs, 11 pour une quarantaine de minutes. On reprend la formule en y ajoutant parfois des cuivres, un peu de balade pop, probablement pas le plus exceptionnel de l'album, en tout cas à mes yeux. On pourrait à la limite un peu s'en passer. On introduit ce qui avait déjà été le cas sur les trois premiers albums, des monologues qui parsèment, alors là, quand même vraiment beaucoup sur cet album, hein, dialogues parlés avec une musique électronique et sans les autres éléments. Alors, c'est intéressant à la première écoute, à la longue, c'est long, on va dire. Voilà. Bon, mais il y a quand même des choses vraiment passionnantes, hein, notamment quand ils reviennent à leur style plus classique. Là, c'est génial, comme sur le titre qu'on a déjà écouté, ou encore sur Big Guitar, Jack Off in the Sky. Mais c'est vrai qu'il y a un petit côté intello arty dans ce groupe, hein, une sorte de proximité avec, on pourrait dire, avec un Philippe Catherine pour le côté faussement naïf, quoi, un tello faussement naïf, Catherine qui n'aurait pas versé dans la variété, et un côté un peu arty qui peut prendre parfois un peu le dessus et qui rend les choses un peu plus difficiles à l'écoute. Bref, c'est comme plutôt un album qu'on a envie d'écouter plutôt en streaming qu'en vinyle, c'est-à-dire de pouvoir passer certains morceaux pour garder ceux qu'on aime bien. Et on attend là aussi encore les concerts, parce que le problème c'est que c'est un groupe qui contrôle tout, et notamment ses concerts, ils en font très très peu. Ils sont passés 3 fois à Paris au tout début, et puis ils sont plus jamais repassés, et ils font quelques concerts par an, 10 max. Et donc on espère pouvoir les accrocher dans les prochains mois.
Ouais, moi j'étais comme toi, hein, les trois premiers mini-albums, c'était pas très long à chaque fois, m'avait vraiment bluffé. Puis alors ils nous avaient habitué à en sortir un par an, hein, c'était quasiment tous les ans on en avait un, et ça nous avait, lorsqu'en 2018 ou 19 ils sortent le troisième, mais plus de signes de vie, quoi, plus de son, plus d'image, ça nous avait un peu laissé sur notre faim. Et les revoilà, mais le truc c'est qu'en 6 ans on a un peu refait notre vie, quoi. On a eu de nouvelles passions, d'autres coups de cœur, on a découvert Whiteboard, Silicon Valley, Cherry Chic, enfin, je ne vais pas vous faire une liste de tout ce qu'on a chroniqué ici, mais du coup c'est un peu tard pour arriver en plein hiver, frapper à ma porte et venir me chanter sous ma fenêtre, ouvrez-moi la porte. Bon, malgré tout, on retrouve nos amis de Minneapolis avec plaisir. Ils ont un peu vieilli, ils se sont peut-être assagis, peut-être j'ai l'impression qu'ils ont accumulé tellement de trucs qu'ils ont fait un album qui est beaucoup moins droit que les trois précédents, où j'avais j'avais l'impression à chaque fois une ligne directrice qu'ils exploraient pendant ce à chaque fois un court album, mais il y avait un truc très très net. Là, ils continuent à faire cette musique qui joue sur un contre-pied permanent avec un art consommé de la rupture. Ça forme une espèce de post-punk un peu épileptique. Là, j'ai l'impression que les morceaux se sont allongés. On voit qu'ils prennent le temps de déployer, de déplier leur musique. Je trouve que parfois, ils auraient gagné un peu de concision, quoi, qu'ils s'étalent un peu. Bah, je veux pas redire ce qu'a dit Cédric sur les incursions pop, là, qui sont, pop, quoi. Enfin, c'est pas très intéressant. Mais c'est vrai que le reste, il y a ce post-punk savant, virtuose, intello, déstructuré, toujours dans cet équilibre précaire entre élégance et déglingue. Et moi, j'ai l'impression que, on est cœur de cible, quoi. Quand ils font de la musique, ils pensent à nous, quoi. Ils disent, on va leur faire plaisir aux gars de Tatapoum et aux nanas de Tatapoum, quoi. Voilà, bon, moi, j'ai trouvé ça très bon. Il y a même des morceaux qui sont plus que bons. Je trouve ça touchant dans leur manière de les exécuter, de les incarner, etc. Le seul regret, c'est d'avoir dû attendre aussi longtemps. Mathieu.
Mais effectivement, c'est le premier album depuis 6 ans, vous l'avez déjà dit. Et toi, tu l'as laissé entendre, Pierre. Moi, c'est la première fois que je reste sur ma faim. Parce que il y a certains titres qui sont excitants comme leurs prédécesseurs, avec des influences ou des références à Art Brut, par exemple, qui me semblent évidentes. Mais il y a aussi des longueurs, il y a des incongruités, hein, les 4 pseudo-interludes The Wall, c'est bien, si c'est juste pour atteindre les 40 minutes, ils auraient pu faire un seul autre morceau plutôt que de mettre 4 remplissages. Il y a du Swell Maps totalement raté, Tokyo, Paris, LA, Milan. Alors en fait, ce serait un groupe lambda, ce serait un premier album plutôt honnête. Mais pour le Minneapolis Uranium Club Band, c'est une déception.
Arnaud.
Ouais, vous jouez à les ronchonchons, hein. et puis, ouais. Non, moi je connaissais pas, donc c'est bien de pas connaître et puis de dire totalement l'inverse de vous, je pense, parce que je vais avoir le malheur de trouver les morceaux que vous avez détestés, les meilleurs de l'album. Moi j'avais écouté ça rapidos sur un lecteur internet et Spotify et... j'avais trouvé ça verbeux, limite prétentieux, notamment les plages sonores là, les 4 qui sont vraiment chiantes. Mais avec une écoute très rapide, juste pour voir ce que tu nous avais balancé, Pierre, à écouter. Et en fait, une fois que je l'ai vraiment écouté, que je me suis posé, c'est le talent de ce groupe qui m'a quand même sauté aux oreilles. On s'en rend très vite compte dès la première piste. Et mais moi, celle que je trouve les plus intéressantes, c'est peut-être le versant pop. Moi, Tokyo, Paris, LA, Milan, j'ai trouvé ça vraiment splendide, hein, comme morceau. Ça, c'est dans ma playlist et c'est dans mes tops de l'année en morceaux. L'avant-dernier, donc j'imagine aussi vous parlez de celui-là, c'est une balade sonore vraiment indispensable à mon oreille, où ils arrivent à mêler piano, cuivre. Le tout dans un shaker rock, c'est très intéressant. Je le sauve plus que vous.
Guillaume.
Moi, ouais, c'est dès la première écoute que j'ai été séduit par ce disque, indéniablement intriguant et passionnant à découvrir, car audacieux et original dans sa capacité à développer une musique savamment agencée et agréable dans un style art punk plein d'élégance. On est dans la continuité de groupes comme Squid ou Yard Act qui eux aussi s'aventurent à proposer un rock qui échappe aux conventions faciles pour poser leur univers singulier, mélangeant les styles, les genres et usant de cuivre autant que de comptines. L'Uranium Club a la capacité de désarçonner et de séduire tout à la fois. D'un titre à l'autre, on ne sait à quoi s'attendre. On est constamment surpris et impressionné par leur inventivité et la richesse dont ils font montre. J'ai pu songer aux Dead Milkmen ou Alice Donuts, ces petites formations US du tournoi des 90s qui se replaçaient dans la filiation de Frank Zappa et Devo en y mêlant un post-punk cacophonique élégant et recherché. Mais je pense que chacun y piochera aussi ses références propres pour définir leur musique, tant les influences possibles sont nombreuses, témoignant du caractère intrépide du groupe qui n'hésite pas à prendre des risques afin de proposer de l'inhabituel. Donc un excellent album qui restera comme l'un des plus marquants de 2024 selon moi.
Eh bien, on va donc écouter un deuxième extrait de Uranium Club, c'est Abandoned by Narrator.
the narrator. I can't move! I can't move! Epileptic seizure. End of the story. Period.
Ça, c'était donc Uranium Club. On va passer à l'album suivant. L'album suivant, c'est un album de classe. Et Guillaume nous en a sélectionné un premier extrait, Biggest Sale of the Year. Voilà, ça c'était classe, et c'est donc Guillaume vers qui je me tourne avec un brin d'inquiétude qui va nous en parler.
Pourquoi ça? Classe, donc on ne compte plus le nombre d'occurrences sur Discog, le nombre de groupes qui s'appellent Classe, il y en a trop, est une formation de rock garage à tendance glam en provenance de Tucson, Arizona, signée depuis leur début en 2022 chez l'appréciable label Feel It Record. Et ils nous ressortent leur quatrième album qui s'appelle A Healthy Alternative. Toujours avec les mêmes cinq membres du début, dont c'est le premier groupe, à l'exception de Derek Mayer qui a fricoté avec pas mal de formations en tant que guitariste depuis les années 10. Lorsque j'ai écouté leur disque pour la première fois, je vous avouerai que j'ai pris la précaution de vérifier sa date de sortie pour m'assurer qu'il n'était pas une sorte de pseudo groupe proto-punk de 1975 dont on réémergerait de l'oubli l'album, tant leur son nous plonge dans une époque bien lointaine désormais, celle d'avant l'émergence du punk, quand les rockers étaient encore des rockers, quand les guitaristes envoyaient du lourd et savaient aligner plus de 3 accords, et que les chansons comportaient une intro, un couplet et un refrain. Car leur musique est affreusement datée, quand bien même est-elle parfaitement tenue. Ça ne reste pas moins une musique d'outre-tombe dont la fanbase doit aujourd'hui recouvrir la sociologie du vote macroniste du 15e arrondissement. Et d'un certain point de vue, c'est une qualité de faire sonner si soigneusement un si vieux son. Mais de l'autre, il témoigne du caractère résolument conservateur que prend la programmation de cette émission. Je suis anxieux pour mes camarades. Hein. Pierre nous faisait part de la baisse de crédit qu'avait sur lui mes goûts musicaux, mais pour ma part, c'est la régression vers cette musique déphasée d'avec notre époque qui ne manque pas de m'inquiéter.
Bon, Héloïse.
Ben, je suis entièrement d'accord avec Guillaume. Et conservateur, c'est peut-être le qualificatif que je retiendrai. J'ai trouvé ça pas mal, mais pas vraiment original, à l'image du nom du groupe. Plutôt bien fait, mais déjà très éprouvé comme style, tirant un peu trop dangereusement du côté de la power pop à mon goût. Halsey Alternative semble emprunter à pas mal de styles sans jamais vraiment trouver le sien. On pense aux Cramps, à Green Day, aux Ramones ou encore à Def, mais au final, pas du tout à classe. Un peu comme un ado en quête d'identité avec les cheveux verts, c'est un album qui cherche et à côté duquel je suis totalement passé.
Ok, Cédric ?
Alors, c'est vrai, bon, c'est des États-Unis, mais c'est clairement du côté du punk 77 anglais qu'il faut se tourner. Je pense que c'est assez assumé, avec des relents un peu clashiens sur certains titres, comme Not an Idiot, par exemple. Très Buzzcocks aussi, ou encore, voire peut-être un peu plus d'ailleurs, du côté d'Endertones, notamment sur Burnout City. Mais comme moi j'aimais bien tout ça, et d'autres groupes anglais, ben, je suis bien content de réentendre ça, un peu différent, voilà, c'est pas très très grave. Parce que quand j'avais vu un groupe de Tucson et de l'Arizona, j'imaginais encore un truc, un peu un mélange de rock un peu lourd et d'Americana. Mais non, on est bien ici du côté du punk rock solaire, qui va droit au but. Matinée d'un brin de pop, parfois plus qu'un brin, hein, comme sur le bien mal nommé Move So Fast, qui est assez pénible, je trouve, qui renvoie plutôt du côté de la mauvaise variété rock des années 70. Je trouve que quand on fait bien un truc, eh ben on y reste, quoi. En gros, qu'on s'aventure pas à vouloir faire le malin, à se dire voilà, je vais faire autre chose. Bon, c'est bon. Alors bon, voilà, moi ça me gêne pas que ça ressemble à déjà d'autres choses. D'ailleurs, après, quand on pourra plus faire de voyage en avion, qu'on arrêtera avec les tournées internationales, on sera bien content d'avoir nos petits groupes qui font peut-être comme les autres aussi, mais qu'on ira voir dans concert comme avant, plutôt que de rester tout seul chez soi. Et puis bah il y a une reprise, et évidemment la reprise c'est du côté britannique qui se tourne avec le terrible Amory Building des éphémères Scabs, vraiment une chanson géniale que je trouve ici bien remise au goût du jour, bien maîtrisée. Comme ce groupe qui est carré dans les riffs, à mettre du côté des Unknowns qu'on a chroniqué ici il y a pas longtemps. Et apparemment aussi, les textes sont bien tournés. J'ai pas écouté plus que ça, mais apparemment c'est pas n'importe quoi. Donc bah là aussi plaisant. Quand ils passeront, j'irai avec vous les voir.
Arnaud. Difficile de s'appeler classe quand on n'en a pas, parce que vraiment c'est très dur. Ouais, bon, elle est facile, je sais, mais le reste va être d'une pauvreté et d'une banalité à l'image de ce qu'ils font là, de leur composition. Ouais, c'est vrai qu'ils méritent même pas de traverser l'Atlantique pour la planète et pour nos oreilles, franchement, qu'ils y restent, parce que c'est suranné, c'est vieillot, c'est surcuit. Je suis entièrement d'accord avec toi, Guillaume, ça baigne dans le formol. Il y a peut-être Kibernetus qui pourrait y trouver son compte en sortant de son congélateur, mais c'est je suis d'accord avec ce que tu dis, Héloïse. Le c'était mieux avant, le retour de la nostalgie du temps passé, c'est quelque chose qui passe absolument pas dans mes oreilles en ce moment. Et en plus, ils viennent de l'Arizona, dans le contexte actuel, ça passe pas du tout.
Ok, bon, Mathieu, est-ce que tu mets encore une pelletée de terre sur la tombe de classe ou pas?
Ben non, moi je peux pas abandonner mon copain Cédric, hein. Franchement. Comme il a dit, moi il y a un petit côté Undertones dans le chant. Alors je suis d'accord avec vous, c'est très daté. Mais c'est daté, et ça correspond à ma période de prédilection. En gros, l'Angleterre 76-82. Donc ça passe comme une fleur. Alors tout n'est pas excellent. Alors parfois ça fait un peu hippie. Genre move so fast. Oui, effectivement, c'est un peu. Ils auraient pu s'en passer. Et on est souvent proche de groupes de anglais de seconde zone. Bon, la connexion Boys Lurkers par exemple. Mais c'est toujours mieux que des boys bands qui se prétendent post-punk en fait, hein. Et tu l'as dit, Cédric, ils reprennent The Scabs. Alors The Scabs, c'est quand même un groupe londonien qui a sorti un EP en 79. Moi je trouve que reprendre The Scabs comme ça, c'est punk, ou alors je m'y connais pas.
Bon, allez, je vous propose un deuxième extrait de classe, not an Idiot.
You're never tired.
Ben voilà, ça c'était donc Classe qui fait débat, Not an Idiot, le titre. On va changer de continent et on va aller écouter Dame Area, Dame Area. Et c'est Arnaud qui nous a sélectionné un premier titre, Vengo dal Aldilia. Et voilà, c'était donc le premier extrait de Dame Area, et c'est Arnaud qui nous en parle.
Ouais, alors c'est le quatrième album studio de ce groupe italo-catalan qui est signé sur un label italien qui est basé à Londres, le label Manca Records. Plutôt habitué aux sorties techno, électroniques, plutôt industrielles et assez agressives quand même, qui héberge notamment Arnaud Robotini ou Le Roi Summer, on a déjà parlé. Ce duo, en fait, il est né de la rencontre d'une Italienne, Sylvia Constance, et d'un Espagnol, pardon, Victor Crux. Ils se sont rencontrés dans un club barcelonais, Maria Roja, qui est spécialisé dans l'électro-indus. Ils se sont rencontrés aussi autour de leur amour pour la musique expérimentale, comme un groupe madrilène début des années 80 qui s'appelle Splendor Geometrico, moi je ne connaissais pas. Et ils se sont rencontrés également aussi autour d'un Italien, Franco Battiato, qui est un précurseur de la musique électronique expérimentale italienne, et qui à l'époque avait fait un tube qui s'appelait Centro di Gravità, qui a donné le nom à leur premier album 2018 ou 2019. Donc à l'écoute, on pense aussi assez vite en termes d'influence à des groupes comme Suicide ou Front 242, notamment pour le travail sur la rythmique, la distorsion, avec ouais des sonorités quand même assez industrielles. Alors cet album, il est intitulé si on, en français dans le texte, Toute la vérité sur Damaria, et il succède à un précédent sorti il y a quelques années qui s'appelait Tous les mensonges sur Damaria. Donc on a droit quand même aux deux côtés d'une même pièce, deux versants de leur musique. L'album précédent était plutôt plus électro et plus mélodique. Et beaucoup moins brutal, et c'est ce qui les avait notamment gênés après le précédent album, parce que en live ils déployaient une rage et une agressivité qui transparaissaient pas sur le précédent, et c'est ce qui les a motivés à travailler sur un album du coup beaucoup plus brutal et qui rend grâce du coup à leur prestation scénique. On peut dire qu'on est servi si certains cherchent encore l'énergie punk de l'album, du groupe, l'écoute du morceau qui passera après légitimera toute leur place dans Tatapoum. En termes d'influence dans la construction de l'album, il y a aussi le flamenco qui pour eux est important, notamment parce qu'ils habitent à Barcelone dans un quartier dans lequel il y a beaucoup de groupes de flamenco, et ça explique la construction rythmique de pas mal de morceaux. Celui qu'on vient d'écouter, Vango de la Lida, ouais, je parle pas très bien espagnol, et le deuxième c'est Tume Hiciste Écrire, dans lequel la rythmique est vraiment très proche en fait de la musique flamenco. Deuxième influence pour la construction de l'album, qui explique les choix artistiques, notamment au niveau de la voix, c'est un titre d'une chanson napolitaine, pareil, des années 80, qui s'appelle Segundo Coro delle Vandai, de Roberto de Simone, dans lequel on entend en fait des voix féminines en transe. C'est un morceau qui dure 9 minutes, qui est génial. Et en arrière-fond, des percussions tribales. Et moi, je l'ai écouté du coup juste après avoir écouté l'album, et la ressemblance est frappante. On comprend vraiment l'influence de ce morceau et l'usage de ces répétitions, notamment des effets d'écho dans la voix qui sont permanents sur tout l'album. Après, c'est difficile quand même de se rapprocher du live sur album, notamment parce que c'est quand même un groupe qui a tendance à passer en fin de soirée en live, donc l'écoute agressive est pas forcément évidente, mais je trouve quand même qu'ils s'en sortent plutôt bien. Alors c'est pas très mélodique, c'est beaucoup plus orienté sur la percussion et le côté tribal de leur talent, quoi. Et bon, ce qui est peut-être gênant, c'est l'artwork du groupe, pas forcément leur point fort. La pochette est assez ignoble. Où est la vérité de ce groupe entre côté mélodique, toujours quand même bien électronique, et le côté très très rugueux, très brutal? Il y a un morceau qui, à mon avis, synthétise parfaitement leur musique, qui est sorti sur le label de Rebecca Warrior, compilation Rainbow Warrior, qui est sorti l'an dernier. Le morceau s'appelle Tu No Me Cambiaras, et c'est un morceau punk qui est absolument génialissime, et qui synthétise toute leur musique, à écouter absolument.
Mathieu. Alors, je crois qu'on n'a pas dû entendre le même album avec Arnaud. Bon, c'est parce que moi, ce que j'ai entendu, j'ai pas trouvé ça vraiment brutal. J'ai entendu un genre d'électro, pas trop rapide, parfois un peu minimaliste, plutôt daté, et qui passe sans vraiment déranger. Donc, en fait, moi, je me suis posé trois questions. La première, c'est quel est l'intérêt de cet album? Je pense qu'il est très relatif. Quel niveau d'excitation il crée chez moi? Nul. Et en fait, la vraie question, c'est est-ce que ça a un profil Tatapoum? Et moi, je pense qu'il y a une erreur de casting dans le fait de programmer Damaria dans Tatapoum. Mais voilà, si je suis le seul à ne pas accrocher, peut-être que je serai dans l'erreur. Mais vous réussirez pas à me convaincre.
Bon, c'est moi, quand même, je trouve ça intéressant. C'était alors comme synthwave industriel, comme diraient certaines critiques. Bon. Le premier truc, c'est que c'est vraiment un groupe de scène. On trouve facilement des vidéos de leur performance. C'est très engagé. Il y a un truc physique, quoi, dans leur rapport à la musique, qui est peut-être plus difficile à remettre dans un album. Ce mélange de percussion tribale à laquelle on ajoute quelques synthés, et puis surtout beaucoup d'éléments industriels. Il y a des références affichées de Throbbing Gristle ou Neubauten. Et voilà, alors bon, j'ai un peu de mal à vous parler de ce groupe parce que moi je fonctionne souvent par analogie pour situer, comparer par rapport à des groupes qui pourraient, et en fait j'ai cherché dans ma discothèque, à part Maria Violenza qui où on peut trouver dans la manière d'interpréter, dans le recours aux machines électro et dans l'engagement physique dans l'interprétation, j'ai pas de référence dans ce style là il y a pas de guitare électrique, et puis ça vient d'une ville qui figure pas vraiment sur la carte du punk rock. Comment dire, il y a un côté angoissant entre les cris, plus que le chant d'ailleurs de Sylvia Constance, et des percussions qui semblent jouer avec un tractopelle la plupart du temps. Je trouve que ça donne quelque chose de prenant, d'intrigant, on rentre dedans, et il y a un truc de trance qui est sans cesse perturbé par ces éléments industriels. On a l'impression que les plaques de tôle ondulées martelées sont leur instrument fétiche, et on est dans ce truc, c'est à la fois, à chaque fois qu'on va pour s'être complètement embarqué et tout, il y a quelque chose qui nous laisse pas tranquille, comme un espèce de trip impossible. Voilà, moi je trouve que c'est un voyage un peu épuisant, mais les paysages sont immenses, des amas de pierres chaotiques à perte de vue qui fascinent autant qu'ils inquiètent, n'est-ce pas Guillaume?
Juste un petit truc, ton lapsus percussion tribale que tu as dit, persécution tribale, dit peut-être beaucoup de choses aussi.
Oui, bah je rejoins, enfin je suis un peu dans l'entre-deux, parce que je reconnais que c'est une musique, enfin c'est une musique EBM on va dire, Electronic Body Music, hein, pour ceux qui connaissent pas, proche d'une techno-indus sommaire, mais qui accompagne des lignes plus mélodiquement pop, voilà un peu l'armature générale de ce disque lorsque j'en ai retenu à son écoute. Il y a parfois l'introduction d'ambiance plus ambiante justement, et ou bien alors des bruitages soit répétitifs soit intrusifs, mais dans l'ensemble le cadre ne varie peu, et c'est le chant surtout qui apporte la personnalité au compo, puisque trituré sous diverses formes, particulièrement par des boucles. Et là on sent la forte influence de Suicide sur plusieurs morceaux, mais davantage pour le côté cercle hypnotique que pour la radicalité sonore. La prédominance de la mélodie chantée ou hurlée, hein, c'est ce nom, assure un ton convenable mais pas plus dérangeant que cela à ce disque. Et de ce point de vue, j'ai davantage été intéressé par les morceaux plus résolument indus comme Urla de Guerra, même s'ils ne m'ont jamais véritablement suffisamment perturbé pour que j'y accroche pleinement. Donc il en ressort pour moi un disque moyen, dont je retiens pas grand chose de fort, mais dont je reconnais cependant le vrai travail artistique sur les compositions.
Héloïse.
Eh bien, moi, je rejoindrai davantage Arnaud. C'est vraiment un disque qui m'a laissé bouche bée. Avec celui-ci, on plonge dans quelque chose qui s'apparente à une expérience sonore, à la fois électronique, tribale et industrielle, aux textures synthétiques, métalliques, voire bruitistes, un peu comme si Mudcracker et Rebecca Warrior avaient décidé de faire un disque ensemble, mettant à l'honneur la musique d'ethnies vivant coupées du monde et le flamenco. Et c'est cet alliage qui, selon moi, fait toute l'originalité de ce disque, ajouté à la voix de la chanteuse dont le timbre, parfois revendicatif et incendiaire, mêle chant en espagnol et en italien. Il en résulte quelque chose d'animal, de cru et d'hypnotique que j'ai trouvé grandiose.
Eh bien, on vous propose de terminer cette émission avec un deuxième titre de Dame Area, Sempre Cambiare.
Thank you. approche, Chico. Attention, enclenche les rétrofusées.
Voilà, c'était Tatapoum, épisode 56. Ce soir, on retrouvait autour des micros les alligators de la critique rock avec Mathieu, Guillaume, Héloïse, Cédric et Arnaud. Et puis, de l'autre côté de la vitre, on retrouvait la fine équipe de la réalisation, que dis-je, de la mise en onde, avec Marion, Bibi et Mara. Bon courage pour ce qui vous reste à supporter de dimanche et bon courage pour la dinde. À ciao.
Magnifique.